On ne présente plus vos mérites, cher père, mais je dois exposer notre nouveau sujet. Du début du printemps, du pinson et du jet, des cerisiers en fleurs, nous ne parlerons guère. Mais notre thème lit Jardin du Luxembourg, Compagnie de Jésus et la vie trinitaire. Vous l'avez deviné, je ne peux plus le taire. Nous parlons mission à partir de ce jour.
Quel super thème. Alors, donc la petite feuille que je vous ai distribuée, donc pour une fois, je ne vous fais pas un PowerPoint parce que j'avais aucune image à montrer, donc j'ai jugé peut-être pas la peine de mettre trop de matériel. Donc vous verrez, les textes que je vous ai mis sont plutôt des textes un petit peu denses, voilà. Mais au fond, ce que j'ai à dire est, je pense, assez simple. L'idée, c'est vraiment que comme on ouvre un cycle donc de réflexion sur la mission, et que dans le programme que les princes provisoires m'ont donné, c'est un programme plutôt, pour le coup, avec une dimension, enfin où il y a aussi du témoignage. Je me suis dit, du coup, moi, je vais faire un peu office d'une introduction un peu plus théologique au thème qu'on va vivre. Et puis ensuite, mais en même temps, mon idée derrière ça aussi, c'est de montrer que la théologie est toujours absolument ancrée, en fait, dans la dimension la plus existentielle et la plus pratique de nos existences. D'où le titre, hein, la mission 2. De la vie trinitaire au jardin du Luxembourg. Voilà. Et donc, ça va être un plan assez simple. Hein. 1. La vie trinitaire. 2. L'envoi de Jésus-Christ. 3. Le jardin du Luxembourg. Voilà. C'est pas très compliqué. Mais en fait, derrière, on va voir que l'idée, c'est vraiment de fonder, au fond, ce que nous faisons quand nous sommes en mission, c'est-à-dire quand nous allons à la rencontre des gens. Alors j'ai pris la mission au jardin du Luxembourg parce que je sais que c'est un truc que certains d'entre vous font. Donc je me suis dit, ça a un impact. Mais au fond, n'importe quelle rencontre a une dimension missionnaire. D'un chrétien, on est toujours là, au fond, comme témoin de Jésus-Christ dans notre existence. Et donc je voulais un petit peu voir, au fond, comment quand on part au fondement, c'est-à-dire en Dieu même, et puis dans la manière que Dieu a de se révéler, eh bien, au fond, ça nous dit un petit peu comment mener la mission. Hein, donc, c'est, en gros, Dieu, Jésus-Christ et sa révélation, et puis l'Église. Voilà, les trois parties que je vais un petit peu suivre. Alors, à chaque fois, je commence par quelques citations bibliques, et puis, ensuite, il y aura des textes un petit peu d'explicitation, et j'essaierai un petit peu d'expliquer ces textes pour qu'ils soient intelligibles. Vous n'êtes pas forcément tous rompus à la théologie. Et puis ensuite, je ferai quelques petites considérations qui m'inspirent à partir de ce thème sur, au fond, quelle doit être notre manière d'être en tant que missionnaire. Alors la première chose, hein, c'est Jésus qui parle. « Je ne suis pas seul, j'ai avec moi le Père qui m'a envoyé. Hein, » Si on parle de mission, et notamment de mission trinitaire, c'est parce que c'est dans l'Écriture. Hein. Dans l'Écriture, on sait que le Père a envoyé le Fils, hein, donc il y a deux verbes qui sont utilisés, il y a pempo, hein, l'envoi simple, et puis il y a apostello, hein, qui va donner apostolos, l'apôtre. Hein. Donc d'abord on a cette dimension-là, et puis l'autre citation que je vous ai mis, c'est au fond, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils à nouveau, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Donc la mission du fils, c'est une mission où il est envoyé, mais quand il est envoyé, évidemment, il n'est pas séparé du reste de la Trinité. C'est-à-dire que si le fils est envoyé et qu'il est vraiment le fils, il n'est jamais le fils sans le Père et l'Esprit Saint. Mais ça va nous dire quelque chose, justement, de ce qui se révèle dans la mission, puisqu'au fond, c'est toujours l'amour intérieur à Dieu, l'amour qui était caché aux siècles éternels, comme dit saint Paul, qui vient se révéler à nous. Et en même temps, il est toujours lié à l'Esprit Saint. Voilà, donc le Christ est envoyé, le Fils est envoyé, mais entre guillemets, il ne quitte pas son Père. Et puis en même temps, il est envoyé pour une mission. Hein, c'est-à-dire qu'il est envoyé vers des destinataires. C'est la deuxième partie de cette phrase des Galates. Hein, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Donc la mission, elle a un but. Alors maintenant, on va remonter plus profondément dans la Trinité, au fond. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire que le Fils va être envoyé. Dans le mystère d'amour de Dieu, l'amour n'est pas une sorte de bloc inerte. C'est pas un monisme, mais c'est un dynamisme trinitaire, avec l'amour qui jaillit sans cesse de la source trinitaire qui est le Père, et qui, en jaillissant, engendre le Fils. Qu'est-ce que c'est que l'engendrement du Fils ? C'est que le Père communique, alors on dit qu'en termes trinitaires, il communique sa substance, il communique tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, au Fils, de telle sorte, au fond, qu'il ne garde rien pour lui de l'amour qu'il est tout entier, de telle manière que le Fils est lui aussi l'amour divin tout entier, et le Fils lui-même ne garde rien pour lui, et quand il, entre guillemets, rend son amour au Père, eh bien, il souffle en même temps avec le Père l'Esprit-Saint, donc dans une double spiration. L'Esprit procède du Père et du Fils, c'est-à-dire que le Père et le Fils se rendent mutuellement l'amour. En réalité, le Père, déjà, quand il engendre le Fils, eh bien, il est déjà en même temps aussi, puisque tout est contemporain dans la Trinité, il est déjà en train de spirer l'Esprit. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a ce dynamisme interne à l'amour, et qui est peut-être la raison la plus fondamentale à la fois de notre création. L'amour est fait pour déborder, s'il est dynamisme intérieur, eh bien, il est fait pour se répandre. Enfin, ce n'était pas obligé, mais disons que ça permet de comprendre pourquoi nous avons été créés. Nous sommes créés de manière gratuite, il n'y a pas d'autre raison que l'amour même, mais en même temps, nous pouvons y trouver une raison, si on peut dire, dans l'amour même. L'amour est à la fois gratuit et l'unique explication possible de notre création. Mais il est aussi l'explication, la possibilité pour le Fils d'être envoyé parmi nous. Et donc, ce que je viens de vous expliquer, un saint Thomas, donc c'est la citation que je vous ai mise, saint Thomas, il va expliquer au fond ce que c'est qu'une mission. La mission, elle se fonde dans quoi ? Elle se fonde dans les processions trinitaires. Donc là, au début, on est dans du hyper-technique, je suis désolé, mais c'est comme ça. Les processions, c'est quoi ? C'est procéder pour une des personnes trinitaires, c'est ne pas être première, mais venir d'une autre personne. Donc, pour le Fils, la procession spécifique au Fils, c'est qu'il est engendré du Père quand le Père lui communique sa substance. L'Esprit-Saint, lui, il procède du Père et du Fils, c'est-à-dire qu'il y a une autre forme de procession dont, en moyenne, les théologiens finissent par dire elle est ineffable. Ce qu'elle veut dire, on ne sait pas trop quoi dire. On ne sait pas très, très bien comment le raconter. Voilà. Mais donc, du coup, on va dire ça. Donc, il y a deux manières, il y a deux personnes trinitaires qui procèdent. Le Père ne procède pas. Il est inengendré, comme diront les pères de l'Église. Et il y a deux personnes qui procèdent. Et c'est à partir de ces processions qu'on va avoir deux types de missions différentes, la mission du Fils et la mission de l'Esprit. Alors maintenant, je vous lis la définition que donne Thomas de ce que peut être... J'ai jusqu'à quand, moi, déjà ? Parce que je suis très... Je pars comme ça, mais...
Vous parlez depuis 8 minutes.
Donc, j'ai jusqu'à la demi, quoi. En gros.
Oui, c'est ça, après les questions.
Ça va largement le faire. Comment ? Jusqu'à 35. Ok. Très bien. Donc, je vous lis un petit peu ce que dit Thomas. Parce que Thomas, au moins, c'est quelqu'un qui nous aide à définir les choses. Et donc, il définit ce que sont les missions trinitaires. L'idée de mission ou envoi implique une double relation. De l'envoyer à celui qui l'envoie et de l'envoyer au terme où on l'envoie. Donc, si je reprends la citation de Galates, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, donc relation du Fils à Dieu, donc en l'occurrence, la théos désigne le Père, en grec en réalité, et en même temps, il est envoyé vers un terme, et ce terme, au fond, c'est nous, ceux qui étaient soumis à la loi et qui attendent d'être adoptés comme fils. Voilà, donc double relation, et ça va être intéressant dans la mission, parce qu'en fait, dans la mission, on est toujours, nous, doublement reliés. On est envoyé vers d'autres, et en même temps, on ne vient jamais de nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui nous envoyons en mission. Nous venons de quelqu'un d'autre. Nous venons dire quelqu'un d'autre. Alors, en l'occurrence, le mystère de Dieu qui s'est révélé à nous dans l'amour. Mais, vous voyez, on va se mettre dans ce mouvement du Fils, lui-même, qui est donc à une relation à son Père, et puis à une relation à tous les hommes auprès desquels il vient en ce monde. Être envoyé, cela dénonce d'abord, entre l'envoyé et celui qui l'envoie, une procession. Donc là, c'est ce que je viens de vous décrire, hein, c'est-à-dire que le lien entre le Père et le Fils, ben, c'est que le Fils procède du Père, de même que l'Esprit procède du Père et du Fils. Et donc là, Thomas d'Aquin va donner des exemples. Il va dire, ben, il peut s'agir d'un mandat, comme le cas du maître qui envoie son serviteur. Bon, il l'envoie en mission, donc je ne sais pas que le serviteur procède du Père, mais en gros, en tout cas, il est envoyé par le Père, donc il est envoyé depuis un lieu premier vers les autres. Ou d'un conseil, on dit que le conseiller envoie le roi faire la guerre. Ou d'une origine, comme on dit que la tige émet la fleur. Donc vous voyez qu'il y a différents types, hein. La tige qui émet la fleur, évidemment la fleur, elle ne l'envoie pas en dehors d'elle, la fleur reste sur la tige, et pourtant la fleur fleurit à partir de la tige. Donc là, ça se rapproche peut-être un petit peu plus, si vous voulez, de la manière dont le Fils procède du Père. Cela dénonce aussi un rapport avec le terme de l'envoi. Il s'agit pour l'envoyé de commencer d'être là à quelque titre, soit qu'auparavant il ne fût d'aucune manière là où on l'envoie, soit qu'il n'y fût pas de la manière dont il commence d'y être. J'espère que vous suivez bien. En gros, ça veut dire, hein, c'est pas très compliqué, hein, mais soit il n'y était pas du tout, soit il y est de manière nouvelle. Bon, et là, ça va nous dire quelque chose pour la manière dont le Fils entre dans ce monde. Et donc, on peut donc parler, dit-il, de la mission d'une personne divine, en évoquant par là, d'une part, sa procession d'origine à l'égard de la personne qui l'envoie. Donc ça va être le Fils, sa mission va être reliée évidemment au Père, et l'Esprit, ce qui est très particulier, c'est que l'Esprit va être relié à la fois au Père et au Fils. Et d'autre part, eh bien cela signifie un nouveau mode pour elle d'exister quelque part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction du fait que le Fils va être envoyé dans le monde, ça va impliquer une toute nouvelle manière d'être pour lui à partir du Père. Il n'y a pas de mission éternelle. C'est pour ça que j'étais obligé de remonter dans la Trinité. Il y a des processions éternelles. Éternellement, le Père engendre le Fils et le Père et le Fils soufflent l'Esprit Saint. Donc ça, c'est la vie intérieure à l'amour de Dieu. Mais temporellement, il y a des missions. Les missions, elles sont temporelles, elles entrent dans le temps. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai mis la citation de Galates. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils. Mais au fond, être envoyé en mission pour le Fils, ça veut dire être envoyé d'une manière complètement nouvelle dans le monde que Dieu avait créé. Donc dans le monde qu'il a créé. Et alors, mais en même temps, il va falloir nuancer. On dit ainsi du Fils qu'il a été envoyé en ce monde par son Père en tant qu'il a commencé d'être en ce monde par la chair qu'il a prise, bien qu'auparavant, il fût déjà dans le monde, comme dit saint Jean. Alors là, c'est ça qui est un peu particulier. Hein, c'est que le Fils, il est déjà dans le monde en tant que logos de tous les êtres qui ont été créés. Et donc la mission est une nouvelle manière pour lui d'habiter le monde. Il est envoyé en mission, une mission qui va être une mission temporelle désormais, et en même temps une mission rédemptrice, puisque s'il est envoyé de cette manière-là, c'est parce que la création qui était porteuse du logos divin, qui reflétait Dieu, si vous voulez, qui était à l'image de l'amour même de Dieu, a perdu ce chemin de l'amour. Et donc, la mission du Fils, au fond, c'est de rouvrir la voie de l'amour. Ça va? Ça va? Très bien. Qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Déjà, en fait, des choses très profondes, si on se met rien qu'à regarder ça. Ça veut dire qu'en fait, quand Dieu envoie le Fils et l'Esprit Saint, le Fils et l'Esprit Saint étaient déjà dans le monde, d'une autre manière. Ils sont envoyés de manière nouvelle. Et donc ça veut dire que quand le Fils est envoyé vers nous, il vient au fond approfondir ce que nous sommes. Être envoyé en mission, c'est pas venir faire entrer de manière, en tout cas pour nous chrétiens, c'est pas faire entrer de manière extrinsèque quelque chose qui ne serait pas déjà dans le cœur de ceux à qui nous sommes envoyés, mais c'est le leur révéler de manière nouvelle. Ça a toujours été là. Quand nous sommes envoyés en mission, nous ne sommes pas envoyés, entre guillemets, vers des terres absolument vierges de toute inhabitation trinitaire. En toute personne en ce monde, il y a une marque du Fils dans le simple fait que nous sommes à l'image de Dieu, et la puissance de l'Esprit qui tient toutes choses ensemble, hein, qui est déjà présent dans l'autre. Et ça, vous voyez, c'est, je pense que c'est très important, du point de vue de la mission, d'avoir ce regard vers ce qu'est, au fond, ce que sont les missions trinitaires, parce qu'au fond, quand nous faisons cela, on n'est pas en train de faire violence aux autres, vous voyez, on n'est pas en train de les coloniser spirituellement, vous voyez. C'est des trucs qu'on nous, quelque part, qui nous reviennent maintenant. Hein, on nous dit finalement, alors il y a eu toute l'ambiguïté de la colonisation, mais il y a eu aussi à l'intérieur de ça une mission précisément qui voulait apporter la foi. Ben, est-ce qu'on a fait violence au peuple qui était là? Ou est-ce qu'au fond, on est venu leur apporter ce qui était le plus profondément présent dans leur cœur pour qu'ils puissent, au fond, répondre à cela? Donc on va continuer d'y réfléchir au fil de ce que je vous dis. Mais si vous voulez, déjà, ça nous montre que... Donc ça, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire, Dieu vient... Et il vient, comme le dira encore le prologue de Saint Jean, il est venu, alors on dit, il était dans le monde, et puis après on nous dit, il est venu, eistaidia, chez les siens. Hein, idios, qui donne idiosyncrasie, ce qui nous est le plus propre. Hein. Il vient chez ceux qui lui sont propres, en fait. Il vient parmi ceux qui lui appartiennent déjà, ceux avec qui il a une connivence fondamentale. Pourquoi ? Parce que le monde a été créé par la parole de Dieu. Que toute chose en ce monde, donc ça c'est évidemment Maxime le confesseur qui le déploie bien à partir d'autres théologiens, mais Maxime il vient un peu, hein, au fond, tout être en ce monde a un logos, c'est-à-dire une nature, au sens pas il fait partie de la nature, mais ce qui le constitue comme être, nous avons une nature humaine qui est précisément un logos qui reflète le logos divin. C'est très important ça, parce que sinon on risque toujours en fait d'entrer dans des tas de zones où à la fois on pourrait se dire que ceux vers qui on va, ben en fait on se conçoit dans un état comme si c'était le grand monde extérieur un peu effrayant, ou alors comme si au contraire, ben est-ce que je suis vraiment légitime pour aller leur parler, etc. Et au fond, il faut bien que nous ayons à cœur, dans le cœur, qu'au fond, chaque personne en ce monde est faite pour être fille, pour être fils. C'est une marque initiale. Du logos en nous, c'est ce qu'on appelle précisément la relation d'image. Hein. Nous sommes image de Dieu, et au fond, nous portons cette trace du Fils qui, au fond, est faite pour s'approfondir dans une filiation profondément reçue de lui. Et donc, à partir de là... je vais être très très court, hein, parce que je vais très vite, mais c'est pas grave. La mission du Fils va pouvoir se déployer. Alors maintenant, je vais justement vous parler. Si j'ai appelé le grand 2 la mission en ce monde de celui qui a reçu l'onction, hein, c'est-à-dire j'ai remis en français le mot Christ, hein, bon, c'est pas un énorme scoop, mais vous voyez la question derrière, en réalité, c'est que si on définit le Fils comme Christ, comme celui qui a reçu l'onction, c'est qu'on ne peut pas le définir sans sa relation à l'esprit ici-bas. C'est-à-dire le chrisma que nous avons reçu, notamment dans la première lettre de Saint Jean, on dit que vous avez reçu un chrisma, une onction. Ben, chez Saint Jean, dans cette lettre, de manière très particulière, le chrisma ne va pas spécialement désigner une onction d'huile, il va désigner la parole qui a été reçue dans nos cœurs, que nous avons méditée et qui est entrée en nous pour nous conformer à l'image du Fils. Donc le chrisma qui fait de nous des Christs, c'est une parole, c'est la parole, c'est une autre manière de dire la parole, en tant que l'esprit nous aide à l'intérioriser. Donc ce qu'on va voir, c'est qu'au fond, dans la mission ici-bas, par laquelle, au fond, le Fils et l'Esprit Saint agissent en ce monde, ils viennent révéler l'amour du Père, et ils le font toujours conjointement. Jamais, dans la mission, nous ne pouvons séparer l'œuvre du Fils et l'œuvre de l'Esprit. L'œuvre du Fils, qui va être l'œuvre plus proprement de la parole, de ce qui est formulé, de la possibilité de prononcer le nom de Jésus-Christ, et l'Esprit, qui va être toujours cet amour qui précède, ce gémissement ineffable, ce qui est au-delà de toute parole, et qui pourtant est toujours présent quand le Fils vient en seconde. Voilà, je vais vous montrer un tout petit peu ça, et puis de nouveau, j'en tirerai quelques considérations pour notre manière, en fait, de nous concevoir nous-mêmes comme étant des êtres envoyés en mission. Donc la première chose que je vous donne comme citation, c'est, elle est tirée de l'Épître aux Hébreux, pourquoi je l'ai choisie, hein, considérer Jésus, l'apôtre et le grand prêtre de notre confession de foi. Bon, c'est déjà, je l'ai choisi évidemment parce qu'on n'est pas très habitué à entendre Jésus être appelé apôtre. Hein. Mais en réalité, il est le premier envoyé. Hein, c'est vraiment ce que vient dire l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, ce n'est pas seulement une grande épître sur le sacerdoce, c'est une épître sur l'envoi de la parole qui vient, au fond, nous sauver. Hein. Par le passé, de bien des manières, Dieu a parlé par les prophètes, mais en ces temps qui sont les derniers, dit le prologue de l'Épître aux Hébreux, il nous a parlé en un fils, expression parfaite de sa substance, etc., par lequel il a fait les mondes. Et c'est à partir de ce prologue que toute l'Épître aux Hébreux va se déployer. Et c'est dans cette épître qu'on va avoir, vous savez, cette citation sur la parole. Elle est vivante, hein, la parole de Dieu. Elle vient en nous jusqu'aux jointures. Hein. Elle est coupante comme un rasoir. Et nous aurons à lui rendre des comptes, en fait, littéralement dans le grec de l'Épître aux Hébreux, nous aurons à lui rendre un logos. Nous aurons, au fond, à lui rendre notre logos. La parole qui vient attend toujours notre parole retour. Et puis l'autre citation que je vous ai mise, c'est parce que c'est ce que Jésus dit, notamment dans les évangiles synoptiques, alors qu'il vient de faire une première révélation de sa personne en faisant plusieurs miracles à Capharnaüm, et puis il se retire pour prier, et là tout le monde cherche Jésus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont touché en lui quelque chose de la vie, hein, de la vie éternelle, si pour faire le lien avec le cycle précédent, hein, c'est vraiment ça, hein, qui s'était révélé. Hein, et qui s'est donné à connaître, qui s'est donné à toucher, comme le dit la première épître de Jean. Et donc, du coup, tout le monde va chercher Jésus, et Jésus, au lieu de rester à Capharnaüm, il dit à ses apôtres, enfin, aux quelques disciples qu'il a commencé de rassembler, et puis à la foule qui est là, « Non, nous allons partir dans les autres villages. Pourquoi ? Parce qu'il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela, alors en Saint-Luc, que j'ai été envoyé, littéralement, au fond, c'est pour cela que j'ai reçu mission. C'est de cela que j'ai reçu mission. Et en Saint-Marc, c'est pour cela que je suis sorti. Hein. Et là, on voit que déjà dans les évangiles synoptiques, hein, souvent Saint-Jean est plus théologique, mais déjà dans les synoptiques, au fond, ce qui est dit, c'est que Dieu envoie Jésus et que Jésus, au fond, sort du Père. Hein. Donc, de nouveau, vous voyez, on retrouve cette dimension de la mission qui envoie le Fils d'une manière nouvelle. Donc dans un lieu dont je disais qu'il est déjà au fond marqué par lui, puisque le monde est à l'image ou au moins porte les vestiges du Fils, mais il y est envoyé, nous disait saint Thomas dans la définition qu'il donnait de la mission, il nous y est envoyé dans un nouveau mode d'exister quelque part. Et là, au fond, ce qui est en jeu, hein, c'est que désormais, Jésus va exister autrement ce qu'il était trinitairement. C'est-à-dire l'amour dont nous sommes capables de parler dans la Trinité, nous sommes capables d'en parler parce que d'abord nous l'avons vu en Jésus-Christ. Là, je vous l'ai fait dans le sens, si vous voulez, qui est premier du point de vue de l'ontologie, si on peut dire. Mais en réalité, nous le connaissons dans un autre ordre qu'on va appeler économique, hein, c'est-à-dire au fond, tel que Dieu s'est révélé, qui nous a permis de remonter vers lui. Hein. On parle de l'économie du salut. Pour notre salut. Voilà. Donc, très, très important, ça, parce qu'au fond, quelle va être la manière d'exister de Jésus dans sa sainte humanité ? Il va, au fond, on pourra dire, et alors là, je reprends des déterminations qui sont propres à Balthazar, mais Balthazar, en fait, a cherché à penser toute sa christologie à partir de l'idée de mission. Donc, c'était un peu évident pour moi d'aller un peu puiser chez lui pour vous en parler. Au fond, ce qui caractérise Jésus sur cette terre, c'est qu'il se sait... En fait, il prend une humanité comme la nôtre, donc il devient vraiment homme. Il a une humanité véritable. Hein, mais c'est l'humanité du Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu, éternellement, donc, procède du Père. Mais de manière nouvelle, en fait, le Verbe de Dieu va procéder, si l'on peut dire, dans le monde, mais cette fois-ci sur le mode de la mission, d'une manière qui est qu'il est envoyé vers nous. Tout l'être de Jésus, toute sa pensée, toute sa conscience, tout ce qu'il a toujours vécu,
c'est à la fois d'être totalement relié à son Père, premier terme de la mission, et totalement envoyé vers nous et pour nous, deuxième terme de la mission. Et donc là, je vous lis cette citation de Balthazar, qui vient bien expliquer ça, ou plutôt qui vient le déployer. Dans cette parole de Jésus disant qu'il est venu, hein, donc c'est ce que je vous disais, c'est pour cela que j'ai été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Dans cette parole de Jésus disant qu'il est venu, s'exprime chaque fois la conscience messianique d'apporter par sa personne un événement salutaire et définitif. Alors cet événement salutaire et définitif, Balthazar va lui donner un contenu. Appeler les pécheurs, non les justes, à la pénitence. Ne pas abolir la loi, mais l'accomplir. Apporter le glaive de la décision. Est-ce que vous serez pour ou contre l'amour qui se révèle à vous ? Dans toute mission, il se joue ça. D'une manière ou d'une autre, quand vous êtes envoyé en mission, il y a un oui ou un non qui se prononce en face de vous. Et en même temps, il y a vous qui arrivez avec ce que vous êtes. Enfin, on arrive avec ce que nous sommes. Et moi, il m'arrive d'avoir fait des gros ratés, mais je ne les attribuais pas nécessairement que à la personne qui était en face. Vous voyez, il y aura un petit peu toute cette question-là qu'il faudra traiter. Mais apporter le glaive de la décision, jeter le feu sur la terre, hein, ce verset tellement incroyable de Jésus, hein, « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme il me tarde qu'il soit allumé », qui est un verset qu'il ne faut jamais séparer de l'autre partie, « Je suis venu être baptisé d'un baptême, et comme je voudrais déjà l'avoir reçu ». Et le baptême dont Jésus est venu être baptisé, c'est ce mystère de la croix dans lequel il va entrer pour nous. Donc il y a quelque chose de sa mission, qui d'ailleurs doit nous impressionner, hein, parce qu'en fait, Jésus est venu en ce monde. Pourquoi ? Il est venu pour mourir. Et il le sait. Ça, c'est très particulier. Il est venu pour livrer tout ce qu'il est. Et plus il va grandir, plus il va lui sembler absolument inévitable, évident, sans aucun détour, que cela va être par le mystère de la croix. Donc la mission, là, vous voyez, prend une espèce de poids impressionnant. Parce qu'en fait, Jésus est identifié à ça. Il vient pour cela. Il vient pour donner sa vie. Et bon, on viendra un petit peu à ce que nous, on est censé faire aussi. Mais en fait, voilà, la mission d'un chrétien, d'une manière ou d'une autre, hein, ça va pas être au fond de se dire « Je vais vivre ma vie un peu comme tout le monde, puis à côté, je vais rajouter du spirituel. » Ça va même pas être je vais vivre ma vie en sachant que, bon, un jour je mourrai et puis que peut-être je passerai devant Dieu. Mais en fait, la question d'un chrétien, c'est au fond, comment vais-je livrer ma vie ? Donc, on pourrait le reformuler en disant, mais comment ? En fait, je sais que je suis ici-bas, dans une certaine mesure, justement, pour mourir, pour donner ma vie. Alors, pour la livrer de manière positive, on l'espère, mais aussi avec ce mystère de la croix. Donc, pour jeter un feu sur la terre, et de même que le Fils de l'homme est venu pour servir, pour donner sa vie en rançon pour une multitude, pour chercher et sauver ce qui était perdu. Cette venue ne peut avoir que Dieu pour point de départ, ce qui est aussi clairement formulé chez Jean. Jésus est venu au nom de... Donc Jésus dit « Je suis venu au nom de mon Père. C'est de Dieu que je suis issu et que je viens. Je suis sorti du Père et venu dans le monde. Hein » Donc... Vous voyez, cette nouvelle manière qu'a Jésus d'être parmi nous, ici-bas, c'est d'être là comme totalement identifié à sa mission. Et on peut dire, dans une certaine mesure, qu'il en a toujours eu conscience. C'est simplement une conscience qui va grandir au fil de son être. Moi, j'aime bien souvent me replonger dans les âges de Jésus, me dire, mais une phrase qu'il a dite là, il est le Verbe de Dieu, donc cette phrase le qualifie intérieurement, complètement. Et donc au fond, ça ne change jamais, parce qu'il est le Verbe éternel. Et donc quand il dit, au fond, je suis venu pour livrer ma vie, je suis venu pour chercher les pécheurs, comment est-ce qu'il le vit quand il est un enfant ? Il le vit, si vous voulez, par cette grâce précisément de l'enfant, mais qui devait être éminente chez lui, au fond d'être toujours envoyé vers le monde tel qu'il est, vous voyez, avec une sorte d'innocence, une merveille de capacité d'innocence, d'authenticité, de simplicité dans la relation, qu'il n'a jamais perdue en tant qu'adulte. Et la meilleure preuve, c'est qu'il nous dit, si vous ne redevenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, ce qui va dire aussi à un autre moment, celui qui accueille un enfant m'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Donc à la fois il nous dit redevenez comme des enfants, et il nous dit au fond accueillez en fait les enfants que vous êtes. Donc accueillez-vous mutuellement. Voilà, il y a quelque chose là qui se joue au fond. Je pense que tous les âges de la vie du Christ viennent nous révéler quelque chose justement de ce que peut être la mission. Jésus au temple, c'est pareil. Il se sent envoyé à la fois dans la maison du Père, parce que cette relation à son Père se révèle à lui de manière plus forte à ce moment-là, quand il fugue. En fait, pourquoi est-ce qu'il y est ? Parce que la relation au Père se renforce intérieurement en lui, et en même temps, il va justement vers les docteurs de la loi, c'est-à-dire vers les docteurs de son peuple, pour leur poser des questions. Voyez ? Et eux s'émerveillent, parce qu'un bon disciple, c'est quelqu'un qui pose d'excellentes questions. Bon, là, ils ont le logos de Dieu qui leur pose des questions. Mais vous voyez, en fait, tout ça peut être médité à chaque fois, et je pense que ça nourrit vraiment, en fait, notre être en mission, si vous voulez, avec des petites réunions entre les... voilà. Parce qu'au fond, comment pourrions-nous être envoyés en mission de la part de Dieu si nous n'avons pas d'abord contemplé celui qui est la mission même par son être ? C'est pas possible. Voyez. Sinon, on va le faire de manière humaine, trop humaine. Et on voit bien que ça a été fait dans l'histoire. Vous voyez, avec des critères de... critères d'uniformisation. Bon, c'est très bien, tous ces juifs dans le royaume d'Aragon, que je connais un peu, donc, parce que c'était ma thèse, mais bon, c'est quand même mieux s'ils sont baptisés. Non, vous voyez, il peut y avoir des choses, on peut dire, bah, au fond, est-ce que c'est pas la mission que de baptiser ? Est-ce que c'est pas notre mission ? Baptisez-les, hein, de toutes les nations, etc. Bon. Peut-être qu'il y avait des petites choses à méditer de la manière de faire du Christ. Peut-être, vous voyez, c'est pas que l'Église, entre guillemets, là-dessus, si l'Église fait des erreurs, c'est parce qu'au fond, l'Évangile, parce qu'elle n'est pas encore assez complètement pénétrée, hein, de ce qu'est véritablement ce Christ qu'elle ne cesse de contempler. Je crois que, bon, il peut toujours y avoir des hauts et des bas, mais au fond, cette méditation progresse et de ce point de vue-là, la beauté de l'Église ne cessera de grandir en resplendissement. Et en même temps, vous voyez, Jésus, il est envoyé avec une mission dont on peut se dire, mais est-ce que humainement, et moi, c'est des questions qui me sont posées, est-ce que humainement, bon, on nous dit qu'il est venu sauver tous les hommes, et genre, est-ce qu'il nous avait tous humainement dans la tête ? Alors, s'il nous a tous humainement dans la tête, alors, en fait, en tant que Verbe de Dieu, oui, on est obligé de tenir qu'il y a quelque chose qui reçoit sans cesse de voilà. Mais en même temps, il le vit dans de véritables limites humaines. Et là, je trouve qu'il y a une nouvelle, deuxième citation de Balthazar, là, que je vous donne à la suite, qui est très importante. Cela implique que le Jésus terrestre était conscient de sa mission eschatologique et universelle. Donc Balthazar, il dit, oui, il était conscient qu'il était venu sauver tous les hommes. L'accent messianique de ses déclarations, commençant par « je », hein, c'est-à-dire « suis-moi », « je suis le chemin, la vérité et la vie »,« nul ne vient au Père si ce n'est par moi », bon, on sent que quand même, il est assez conscient qu'il n'y en a pas 36 comme lui, hein, y compris dans son humanité. Ce qui devait sembler, enfin, on n'est pas surpris en fait, que ce soit exorbitant pour les Juifs qui l'écoutaient. Parce que comme il est vraiment homme, on le voit dire, non mais, le mec il délire en fait. Je suis la vérité. Ah ouais, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont capables de dire ça en ce monde. J'ai la vérité, nous à la limite, on se dit, ouais, on peut avoir l'impression, mais non, je suis la vérité. Bon, ben voilà. Donc l'accent messianique de ces déclarations commençant par je. La conscience absolue de sa mission qui s'exprime dans ses appels à le suivre. Hein, ah oui, bah, t'as appliqué la loi ? Très bien. Je te regarde, je t'aime, et je te dis, vends tout tes biens et suis-moi. C'est un peu exorbitant, mais c'est quand même ça. Mais qui appelle essentiellement à l'obéissance et non à l'exaltation. C'est-à-dire que Jésus nous dit de le suivre, non dans la gloire, mais d'abord dans l'abaissement qu'il suit. L'impossibilité aussi de justifier pleinement sa prétention pendant sa vie montre qu'il s'identifiait au-delà de ce qui est réalisable avec ce qui était en vertu de sa volonté absolue d'obéissance attendue par Dieu, de lui et en lui, éventuellement en utilisant la figure eschatologique du Fils de l'homme. Alors là, j'explique un petit peu. Au fond, Jésus, il sait qu'il est venu sauver tous les hommes, mais souvent, il va le dire, vous voyez, dans les moments les plus cruciaux, il va dire, le Fils de l'homme est venu, il faut que le Fils de l'homme soit livré, etc., qu'il meure. Vous verrez les jours du Fils de l'homme. Un jour, vous, Vous verrez les jours du Fils de l'homme comme l'éclair qui vient frapper, qui frappe la terre et qui resplendit jusqu'à l'horizon, hein, formant une immense la croix que dessine la lumière quand l'éclair frappe et que la lumière part jusqu'aux quatre coins de la terre. À ce moment-là, vous verrez les jours du Fils de l'homme. Donc, quand il se met à parler de lui à la troisième personne, quand il se met à employer l'image du septième chapitre du livre de Daniel, hein, j'ai vu comme un fils d'homme qui arrivait devant l'ancien des jours qui était là sur son trône, etc. Ben, Jésus s'identifie à celui qui vient apporter au fond la paix à toutes les nations, mais il le fait en parlant de lui à la troisième personne, comme si dans son humanité, il voyait bien en le formulant qu'il marchait, que sa mission l'emmenait vers quelque chose qui au fond le dépassait lui-même dans sa simple humanité. C'est-à-dire qu'au fond, quand est-ce que Jésus est complet ? Il est complet à la résurrection. Il est vraiment la révélation, et même à l'ascension et à la Pentecôte. Ça veut dire que, dans sa sainte humanité, Jésus ne vient pas pour être le tout ici-bas, l'unique Verbe qui a tout compris, qui ramène tout en lui. En fait, il l'est. Mais il l'est humainement. C'est-à-dire à la fois en étant presque dépassé temporellement par sa propre mission, j'espère que je suis à peu près clair, si vous voulez, mais au fond, il sent qu'il est venu le faire jusqu'au moment où il va livrer sa vie, et où, par lui-même, il ne pourra plus rien. C'est-à-dire, il va entrer dans la mort en espérant que le Père le relève. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Hein, il a prié avec un grand cri et des larmes pour être libéré de la mort, et il fut exaucé grâce à sa grande piété. Ce qui semble toujours, on a l'impression qu'on est dans patatras, il a été exaucé grâce à sa grande piété. Bon, enfin, à la fin, il se fait crucifier, quand même. Donc, comme manière d'être exaucé, ça peut être surprenant. Mais en fait, vous voyez, quand on regarde ça dans cette optique-là, quand on comprend qu'en fait, le Verbe est en train de vivre sa mission, mais finalement, en étant presque... En sachant, au fond, que son humanité même ne peut pas contenir toute la mission du Verbe et qu'elle ne sera pleinement elle-même que quand elle sera ouverte aux dimensions de la résurrection, là, alors, il aura accompli pleinement sa mission en envoyant l'Esprit qu'il donne sans mesure, comme il le dit dans l'Évangile. C'est-à-dire, au moment de la Pentecôte, que vient faire Jésus ? Eh bien, humainement, il vient souffler l'Esprit en nous, voyez, pour que nous lui soyons unis et offerts au Père. Et donc ça, c'est quand même... Enfin, je ne sais pas si ça vous marque, mais vous voyez, c'est... Quand nous disons que nous sommes envoyés en mission, quand nous recevons le sacrement de la confirmation, c'est parce que nous recevons cet Esprit que le Fils est venu souffler alors qu'il est monté auprès du Père dans sa gloire et qu'il nous donne d'une manière nouvelle pour lui être pleinement associé. Et ça veut dire que nous, quand nous sommes en mission aussi, notre mission, par définition, nous dépasse. Par définition, ça va être plus grand que nous. Par définition, nous ne pourrons pas faire, dans la petite conversation que nous avons au Luxembourg, nous ne pourrons pas, enfin, il peut arriver des merveilles, hein, il peut arriver des choses qui sont paf, des foudroiements, voilà. Moi, je discutais, alors c'est pas parce qu'elle a été foudroyée, mais je discutais avec une dame, on a fait une prière des malades mardi soir dans ma paroisse, et elle venait me voir, elle me disait, mon père, et elle en avait des tremblements, elle était presque incapable d'en parler sans vibrer totalement, sans avoir les larmes aux yeux, elle me disait, j'ai 47 ans, j'ai découvert Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pendant 47 ans, mon père, mais je comprends pas, j'ai perdu 47 ans. Enfin, voilà, c'était vraiment une espèce de puissance de l'amour de Dieu en elle. Moi, j'étais quand même complètement bluffé. Enfin, elle me disait, mais tout est plus paisible. Cette femme est malade, elle sait que c'est pas. Elle dit, mais voilà, je parle à mes enfants, je devais pas être prête, je n'écoutais pas, mon père, je pense que je n'écoutais pas. Pourtant, il était là, mais enfin bon, mais c'était des paroles qui s'entrechoquaient, mais. Pour dire en fond quelque chose de ce que Dieu veut faire. Donc il y a parfois des foudroiements, des gens qui vont être... Mais au fond, nous, parfois, ce qu'on va juste voir, c'est cette petite partie de notre mission que nous accomplissons, cette conversation où on a l'impression que c'est tellement limité, qu'on est en train d'essayer de repousser des murs, et puis que la personne dit « Ouais, c'est vrai. Enfin, » vous savez, c'est cette conversation parfois qu'on a, mais c'est complètement décevante. Bon. Et vous imaginez ce que c'était Jésus que de parler à ses apôtres? Ah, là, moi, on vient de terminer le chapitre 18 là, avec les jeunes à qui je fais lire l'évangile de Luc en entier cette année. Ça se termine par Jésus dit, mettez-vous donc bien dans la tête que le Fils de l'homme va devoir souffrir, qu'il va, etc. Bon, très bien. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Les disciples ne saisirent pas ce qu'il disait. Cette parole leur était cachée. Ils ne comprirent rien. C'est quand même impressionnant de voir Luc mettre ça. C'est-à-dire que il faut que nous comprenions aussi que dans la mission du Christ en ce monde, il y a aussi l'inertie du monde qui se refuse à lui. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Et c'est une profonde gravité, en fait. Le prologue de Saint Jean prend aussi des atours où c'est impressionnant. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, précisément. Puisque c'est ça, il est venu pour que nous soyons fils adoptifs. Je rappelle la citation de l'Épître aux Galates. Ouf, j'en ai explosé le temps. Bon, j'ai toujours des espoirs d'avancer vite, puis en fait, à la fin, c'est toujours... Voilà, bon. Mais donc, si vous voulez, impressionnant, vous voyez ce dépassement de Jésus par sa propre mission, mais qui fait partie de ce qu'il est en train de dire dans son humanité. Et alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand Jésus vient en ce monde, ce qui est très particulier, c'est que dans la Trinité, il y a ce qu'on appelle une taxis trinitaire, c'est-à-dire un ordre trinitaire. Les personnes, évidemment, sont éternelles, elles sont toujours entre elles, etc. Mais néanmoins, il y a une source, il n'y a pas trois sources de la Trinité, il n'y en a qu'une, c'est le Père. Il y a le Fils qui est le premier engendré du Père. Même si le Père, en engendrant le Fils, quelque part est déjà en train de spirer l'Esprit qu'il va co-spirer avec le Fils, parce que le Fils, l'Esprit procède du Père et du Fils. Donc il y a cet ordre-là, mais au fond, l'Esprit est le dernier. Il procède du Père et du Fils. Donc il vient, il est envoyé aussi par le Fils. Et pourtant, ici-bas, l'Esprit vient en premier. L'Esprit va souvent précéder Jésus. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette citation de l'Incarnation, l'annonce de l'ange à Marie. « L'Esprit Saint viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. » C'est impressionnant, en fait. C'est-à-dire que là, c'est comme si Jésus, parce qu'il vient dans le monde, dans une humanité, pour être relié au Père, il vivait ce qu'il vit de manière trinitaire. Alors, jamais complètement, on pourra nuancer ce truc-là, mais c'est ce que Balthazar va appeler l'inversion trinitaire. C'est au fond, il va dire, ça ne marche pas exactement comme au cœur de la Trinité, parce qu'au fond, l'Esprit-Saint vient sans cesse relier le Fils à son Père pour harmoniser, pour rendre le Fils toujours en attente de la volonté du Père et toujours dans l'obéissance au Père. Dans la pratique, il y a aussi des choses qui disent bien que le Fils reste aussi celui qui envoie l'Esprit. Mais on voit bien que c'est vrai que trinitairement, et ça vient nous dire quelque chose de l'humanité, c'est-à-dire que Jésus vient se plonger dans une humanité qui a besoin de l'Esprit pour être reliée à Dieu. Et donc Balthazar va l'expliquer, là encore. La conscience qu'a Jésus d'avoir reçu la mission du Père et de l'incarner totalement dans le monde est immémoriale. On l'a dit, voilà, il est conscient de toute éternité, enfin, du plus ancien de son humanité, il sait qu'il est envoyé par le Père et qu'il est identifié à sa mission. Mais c'est une conscience de s'être identifié dans la liberté la plus intime avec une tâche qui a été donnée et doit être exécutée à tout prix, donc qui requiert une obéissance parfaite. Quand il ratifie librement la mission, le Fils obéissant peut être pleinement un avec le Père qui envoie librement. Mais là où apparaît la différence entre décider et obéir, apparaît nécessairement aussi une médiation harmonisante entre le Père et le Fils, et cette médiation ne peut échoir qu'au Saint-Esprit. Cela signifie donc que l'obéissance du Fils n'arrive pas seulement après l'incarnation qu'il produirait lui-même activement, mais que son obéissance sotériologique commence déjà avec l'incarnation elle-même. C'est-à-dire, au fond, il se laisse formé par l'Esprit, dans le sein de sa mère, dans un lien à son père qui va être que sans cesse, au fond, il va être guidé par l'amour qui le relie au père. Ça va être ce qui va caractériser la mission du fils ici-bas. Je fais toujours ce que mon père me dit. Je fais toujours ce qui lui plaît, dit-il en Saint Jean. Parce qu'au fond, il ne cesse de se recevoir de l'Esprit. Et ça, là encore, je crois que c'est très important pour nous qui sommes... Jésus est venu nous montrer ça, parce que notre manière à nous de lui être conformé, c'est pas nous d'envoyer l'Esprit, évidemment, mais c'est au fond sans cesse de vivre de l'Esprit, de vivre dans cette réception qui nous relie au Père et qui nous conforme à son être de Fils. Et de ce point de vue-là, ça veut dire que dans la mission, si je ne suis pas en train sans cesse d'écouter ce qui est en train de se passer au fond à la fois en moi, mais aussi dans la personne qui est en face. Parce que si c'est vrai en moi que l'Esprit précède la possibilité de dire le nom du Fils, nul ne peut nommer le Christ si ça ne lui est donné par le Père, c'est ce que dira Jésus, Eh bien, au fond, ça lui est donné par le Père comment ? Par l'Esprit Saint, toujours. Mais donc, quand je suis envoyé en mission auprès de quelqu'un, est-ce que j'ai foi que l'Esprit me précède ? Vous voyez ? Il n'est pas possible qu'il en soit autrement. L'Esprit est déjà agissant pour que les hommes puissent accéder au Fils. Et donc, ce qui va souvent être aussi un enjeu de la mission, de notre manière de parler aux autres, c'est d'essayer d'être à l'écoute de ce qu'eux aussi disent et qui révèlent que l'Esprit est à l'œuvre en eux. Quelles sont les marques de l'Esprit en eux ? Si l'Église a cherché à faire ça à Vatican II, entre parenthèses, s'il y a un vrai sens à cette question des signes des temps, c'est bien là. C'est pas des signes des temps, parce qu'on se dit, tiens, mais ok, maintenant les gens font TikTok, on va faire TikTok aussi. La question, c'est où est l'Esprit en toute chose ? Où est-ce que nous pouvons rejoindre ? Voyez.
Bon, il ne me reste que 34 secondes pour le jardin du Luxembourg. Mais je vais quand même prendre le temps qu'il faut. Voilà. Mais il n'y en a pas pour très longtemps, en fait. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'ensuite, évidemment, l'enjeu, c'est que si le Fils est venu, c'est pas pour repartir en ayant accompli son rôle en notre nom une fois pour toutes. Enfin, oui, c'est lui qui a sauvé le monde, c'est clair. Mais s'il l'a fait comme il l'a fait, en suscitant l'Église, c'est parce que son corps continue d'être agissant. Et donc, en fond, la mission du Fils, elle continue de se poursuivre en nous et à travers nous. À travers, au fond, ce qu'il va instituer. Et ça, ça passe par quoi ? Ça passe justement par celui qui était le premier à nommer Jésus parmi les apôtres. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cela ne te vient pas de la chair et du sang, mais de mon Père qui est aux cieux, et donc tu t'appelleras Pierre. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. Pierre reçoit une nouvelle identité totalement marquée par sa mission. Il reçoit un nouveau nom. Les nouveaux noms reçus sont très importants. Tu t'appelais Abraham, tu vas t'appeler Abraham. Tu deviendras père d'une multitude de peuples, dont le nom voulait seulement dire père élevé. Donc vous voyez, le nom qui est donné, et c'est ce que va dire Balthazar, dans certains cas, l'origine naturelle d'un homme est connue et supposée. Pourtant, la mission qui lui vient de Dieu ne s'ajoute pas de manière simplement accidentelle à cette première identité, mais elle reçoit la prépondérance sur elle, si bien que son être antérieur apparaît comme un moyen et une occasion pour ce qu'il doit être dans la pensée de Dieu depuis toujours. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au fond, quand Dieu nous donne un nom nouveau, je rappelle que dans l'Apocalypse, il y a une pierre qui porte le nom, qui est le nom secret de chacun. Au fond, c'est ce que le pape François va dire quand il nous dit dans Evangelii Gaudium, « Je suis une mission en ce monde. Et si je ne la remplis pas, personne ne peut la remplir à ma place. » C'est-à-dire que ce qui nous est donné, au fond, le véritable nom que nous avons, c'est presque le nom au fond de notre sainteté, de notre sainteté propre, c'est de recevoir, au fond, de la mission que Dieu a voulu pour nous en ce monde, notre véritable identité. Qu'est-ce que c'est qu'un saint médecin ? Bon, tant qu'on n'a pas eu des saints médecins, on ne le sait pas encore vraiment. Qu'est-ce qu'un saint roi ? On ne le sait pas tant qu'on n'a pas eu les... Vous voyez, cette incarnation de ce qu'il est appelé à être. Voilà. Donc ça, c'est déjà ça. Ça veut dire que nous, on est envoyés avec, au fond, cette identité nouvelle qui nous est donnée par notre baptême, c'est-à-dire que, et par notre confirmation. C'est à travers ça que qu'il y a en nous déjà ce que nous sommes appelés à devenir profondément. Et vous voyez qu'il n'est pas... au fond, notre nouvelle identité, elle est plus fondamentale, mais... Tout ce que je suis n'est pas annulé, mais devient un moyen et une occasion de ce que je dois être. Au fond, tout ce que Dieu façonne, préfaçonne en nous, le devient quand nous répondons oui à notre mission. Vous voyez, même moi, dans des aspects hyper basiques, au fond, la formation reçue à l'ENS, etc., les 1000 tours et détours de ma vie... Mais ça prend beaucoup plus de sens parce que maintenant je le fais dans une mission d'église qui m'est donnée, mais où je vois que ça n'annule pas les choses et qu'en fait, au contraire, de manière parfois insoupçonnée, eh bien, ces choses sont réinvesties d'une manière que je n'avais pas forcément vue venir. Ça aussi, je crois que ça doit nous,
donner un tout petit peu confiance que peut-être que nous ne voyons pas tous les tenants et aboutissants, mais Dieu est en train de construire la mission que nous sommes à travers ce que nous faisons. Voilà, et donc vous tenez l'onction du Saint. Alors je vais dire un dernier mot, hein, mais qui est un peu cette dernière citation. Au fond, quand l'Esprit et le Fils sont envoyés, ils n'ont pas exactement la même mission. Parce que comme leur manière de procéder du Père n'est pas exactement la même, eh bien, ils vont avoir une tonalité particulière. Hein. Donc je vais aller rapidement à la citation de Thomas. « Si en parlant de mission, nous considérons l'origine, alors la mission du Fils est distincte de celle du Saint-Esprit, comme la génération de l'un est distincte de la procession de l'autre. Mais si nous considérons l'effet de la grâce, les deux missions ont une racine commune, la grâce, tout en se distinguant dans les effets de cette grâce. » Donc en fait, la mission du Fils et de l'Esprit, ça va être de nous communiquer la grâce, hein, c'est-à-dire cette capacité qu'a Dieu de venir en nous sans annuler ce que nous sommes, et au contraire en le déployant. Mais ils vont se distinguer. Du côté du Fils, la mission particulière du Fils, ça va être l'illumination de l'intellect, y compris dans la mission. Donc ça va comprendre tout ce qui va être l'argumentation, l'apologétique, peut-être même la capacité de tchatch, bon, ouais, voilà. Hein. Et puis l'Esprit, l'embrasement de l'affection. Hein, c'est-à-dire, au fond, tout ce qui vient être, ce qui vient mouvoir la volonté, ce qui vient mouvoir le « oui » de la personne. On voit par là qu'une mission ne va pas sans l'autre, puisqu'aucune des deux ne s'accomplit sans la grâce sanctifiante et qu'une personne ne se sépare pas de l'autre. Donc ça veut dire qu'à travers ça aussi, ben voyez, une mission qui se vit, c'est une mission qui se sent toujours, au fond, nous avons besoin pour ça d'être doublement traversés par l'Esprit Saint et par le Fils, et de savoir qu'en face de nous, ceux qui sont devant nous, sont aussi, en fait, comme des espèces de pierres d'attente du Fils et de l'Esprit, ou des vases en creux, hein, de ce que nous avons reçu en plein par le baptême. Et en même temps, voilà, je trouve ça toujours merveilleux, je termine par ça, « Qui vous accueille, m'accueille. Qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. » Vous voyez, il y a une merveille aussi que dans les dimensions les plus modestes d'une réponse à notre mission, à votre mission quand vous êtes envoyé, il y a un vrai lien qui se joue au Christ. Le Christ le dit, et même au Père. En fait, à travers vous, des gens qui peut-être n'auront pas tellement d'autres occasions de s'approcher du mystère du Christ dans leur vie, auront pu, en vous donnant un verre d'eau, eh bien, ne pas perdre leur récompense. Et donc il y a quelque chose, une sorte de mise à merci de notre part, à la manière du Fils qui vient être à la merci des hommes, et en même temps de merveille de la réponse possible, hein, qui est au fond celle qui peut être espérée. Et en même temps, il ne faut pas qu'on se soit surpris, que ce soit difficile, hein, parce qu'il y a, jusqu'à ce que tout dans la clarté, il y a toute une dimension du monde, au fond, qui... d'une chère pécheresse qui, au fond, se refuse à Dieu parce qu'elle sent à la fois que la vie est là, mais que pour accéder à cette vie, ben, il faudrait quelque part accepter la croix. Et donc je pense qu'il ne faut pas toujours non plus, nous mettre martel en tête si la mission n'est pas réussie. C'est-à-dire que parfois, c'est qu'on n'a pas trouvé les bons mots, on a été trop humain, on ne s'est pas laissé traverser assez par l'esprit. Mais d'autres fois aussi, au fond, il y a cette espèce du mystère du refus dont nous ne sommes pas responsables, mais que nous acceptons de vivre avec le Fils jusque ultimement, jusqu'à ce que tout soit dans la clarté, jusqu'à ce que viennent les jours du Fils de l'homme. Voilà. Je ne sais pas très bien comment je fais pour à chaque fois croire que je vais aller trop vite dans ce que je dis. C'est de l'éternelle naïveté.
Le Fils, c'est vraiment comme le Père, le Fils sans cesse. C'est-à-dire au seul qui ne se communique pas trop, qui ne possède pas et qui a trouvé ce passe de mal pour nous chercher. Qu'est-ce que ça signifie en fait qu'on aille vers ce qui profondément paraît un peu incommunicable. Enfin, le Père, c'est quand même la formation la plus idée, la plus mystérieuse et a priori celle dont. on s'imagine beaucoup plus traversé par l'esprit, on voit ce que c'est que les dons de l'esprit, c'est quelque chose de très concret, mais le bec...
Alors, je vais commencer par dire que pour moi, la personne la plus mystérieuse, c'est l'esprit. Parce que le Père, le Fils, Jésus s'est révélé, le Père, par association avec le Fils, par notre dimension filiale, par notre engendration, par des figures, on peut en avoir parfois une certaine appréhension, mais je vais quand même revenir à la pertinence de ton point. L'Esprit, il est quand même garant du mystère en Dieu, c'est-à-dire que l'Esprit, c'est la personne que Balthazar va appeler la personne sans visage, mais il a raison, cette espèce de mystère traversant qui fait que jamais on pourra... juste mettre la main sur Dieu, parce qu'au fond, l'esprit procède sans cesse. Voilà. Bon, mais néanmoins, tu dis vrai en disant qu'au fond, il y a deux personnes qui viennent vers nous, que Irénée appelle d'ailleurs les mains du Père, mais qui sont évidemment, il ne faut jamais séparer, qui viennent en même temps, qui sont sa révélation. Et puis, on a l'impression que pendant ce temps, le Père, je ne suis pas grand-chose. Pendant ce temps, il attend. Il se demande si on revient. Pas trop. Parce qu'une personne, il ne faut jamais oublier qu'une personne trinitaire, c'est toujours une relation subsistante. Donc au fond, quand le Fils vient en mission, c'est comme si c'était le Père, en fait, qui venait se révéler dans son visage. Le mouvement, il est le mouvement même du Père, au fond. Trinitairement, l'engendrement du Fils, c'est le mouvement, le don total du Père qui se donne presque pour... Oui, alors, ça paraît bizarre, parce que se révéler à lui-même, mais qui vient se dire, c'est ce que rappelle saint Jean de la Croix, le Père dit une seule parole, et c'est son Fils. Il l'a dit dans un silence éternel, et c'est dans le silence que l'âme l'entend. Donc, au fond, tu as raison, mais alors le Père dans l'histoire, mais le Père, au fond, il vient dire en nous ce qui est peut-être la source la plus profonde du mystère personnel. C'est-à-dire que quand nous aimons, quand une autre personne continue de nous enchanter, que ce soit dans l'amitié ou que ce soit dans l'amour humain, c'est toujours ce surplus, ce surcroît, cette promesse d'un plus. Le Père, c'est pas alors on va dire qu'il est le fond sans fond, qu'il est l'abîme profond, qu'on ne pourra jamais combler, mais au fond, il est aussi la source qu'on ne peut jamais contenir, qui est toujours en train de jaillir. Donc en fait, il est, au fond, le garant que cet amour qui est en train de se révéler ne s'épuise pas dans sa révélation, mais qu'il est toujours plus que ce qui se révèle au moment même où tout se révèle. Et pour le dire autrement, avec l'exemple, parce que c'est quand même une des grandes images qu'on va donner pour accéder au mystère de Dieu, dans l'amour entre les époux, deux époux pourront se donner l'un à l'autre de tout leur cœur le plus pleinement possible, ils n'en seront que davantage mystère l'un pour l'autre. Le mystère n'est pas épuisé par l'amour, il grandit avec l'amour qui se donne. Et donc, alors je ne sais pas où relier ça dans la mission, mais on pourrait dire au fond que un abîme parle à un autre abîme, dit le psaume, il y a quelque chose à travers ça qui vient, si quelque chose vient rendre gloire à Dieu aussi, c'est qu'au fond nous venons nous montrer mutuellement la splendeur du Père en nous parlant par des mots, etc. Mais la splendeur du Père, elle va continuer de se dire aussi dans ce qui reste caché, dans ce qui reste scellé, dans ce qui ne sera jamais épuisé, ni évidemment en Dieu, a fortiori en Dieu, mais ni en nous. Ça va ? Tiens, Marie.
Si j'ai bien compris, ce que vous dites... la mission est vraiment un élément qui fait profondément partie du Christ. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on relie le fait qu'il vient pour nous sauver, il vient pour la rédemption, donc pour nous sauver du péché. Donc à la fois, il y a quelque chose qui fait profondément partie de lui-même avant même que le péché puisse... en un sens, ça fait aussi partie de la vie trinitaire avant le péché. Et en même temps, ça se révèle à nous seulement parce qu'il y a eu le péché.
J'entrevois ce que tu dis. C'est au fond, si les missions, elles sont... Alors, les missions, comme elles sont dans un milieu nouveau, si l'on peut dire, qui est ce monde créé tel qu'il est, en fait, nous ne pouvons avoir accès au Père que parce qu'il a envoyé en mission le Fils et l'Esprit. Donc, en fait, on pourrait dire que les missions sont la diction temporelle de la Trinité, mais évidemment, pour nous, cette mission, elle va se dire comme rédemption, parce que nous avions péché. Si nous n'avions pas péché, déjà, première leçon, il ne faut pas trop faire de théologie fiction. Mais on va en faire un peu quand même. Parce que Il y a des gens qui se sont posés cette question. Ben, est-ce que le Fils se serait incarné si nous n'avions pas péché? Alors Thomas va dire non, et Don Scott va dire oui. Hein. Moi, je suis plutôt thomasien de ce point de vue-là. C'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre... Enfin, pour moi, au fond, si nous n'avions pas péché, l'Esprit de Dieu, pour le coup, aurait peut-être été premier, c'est-à-dire il était répandu dans toute la création, il nous aurait remplis de manière toujours plus profonde pour que nous soyons toujours plus à l'image du Fils, toujours plus conduits vers notre Logos, jusqu'à ce que nous soyons emportés au ciel, au fond. Il y aurait eu quelque chose un peu dans une autre dimension, plus de dimension de sagesse du monde créé, qui aurait été un mouvement d'élévation qu'on peut contempler un peu dans le mystère de Marie. Marie, elle est celle, justement, qui commence par recevoir l'Esprit en elle, hein, et puis d'être élevée. Mais en même temps, comme Marie est sauvée ici-bas, elle reçoit l'Esprit en elle de manière absolument spécifique par une grâce qui vient de la croix de son Fils. Ça, c'est aussi Don Scott qui le dit. Hein. Donc, voilà, c'est difficile à dire, hein, honnêtement, hélas, on n'y est pas. Enfin, on a vécu autre chose. Enfin, disons, heureuse faute qui a vécu un tel sauveur, qui nous a valu un tel sauveur. Mais, oui, en tout cas, je crois qu'on aurait été... Je pense qu'il y aurait quand même eu un passage vers le Père. Hein, c'est-à-dire qu'il y aurait quand même eu un enchaînement des générations, mais nous n'aurions pas connu la mort en tant que dislocation, hein, du corps et de l'âme. Nous aurions été élevés, comme Marie est élevée, vers le Père, dans un chemin de perfectionnement, et qui aurait fait de nous, si on peut dire, les voies du cœur céleste, pleinement capables justement de rendre leur logos à Dieu.
Il y aurait quand même une sorte de progressivité de la révélation.
Et de la conformation au Fils. Oui. Mais elle se serait produite différemment. Oui. Mais enfin, aussi, pour vous dire, j'espère que vous n'avez pas eu le sentiment d'avoir un truc juste perché, parce qu'en fait, au fond, mais ce que nous vivons en fait, dans la vie chrétienne, vous voyez, j'aime pas quand on oppose théologie et puis côté pastoral ou je sais pas quoi, parce que la théologie est profondément pastorale et la vie pastorale est profondément théologique. Vous voyez, moi, je ne cesse de voir Dieu qui me parle à travers ce qu'on vit dans tout ça. Enfin, c'est très... vous voyez, je ne pourrais pas vous parler de ce feu jeté sur la terre avec une espèce de vigueur si je n'avais pas rencontré cette dame mardi. Je me disais, je crois que je vois ce que ça veut dire être embrasé, quoi. C'est quand même très émouvant. Et après 1000 détours, visiblement, dans sa vie. Mais on dit la crainte de Dieu, c'est la crainte d'être séparé de Dieu. Hein, la vraie crainte de Dieu, ce n'est pas d'avoir peur de lui, mais c'est au fond de l'aimer tellement qu'on ne supporte pas le moindre écart avec lui. Ben, j'avais l'impression d'avoir la crainte de Dieu faite femme. Voilà, en parlant avec elle, c'est très marquant quand même. Et bien voilà.